France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Un an sans David Lynch et toujours dans le potage. Ce samedi, Plan large reçoit Roland Kermarek et Alexandre Rockwell et aussi Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Depuis hier, ça fait un an, jour pour jour, que David Lynch profitait des incendies qui embrasaient Los Angeles, et on sait combien le feu était une des matières primordiales de son œuvre, pour passer définitivement de l'autre côté du rideau rouge. Pour autant, ses films ne cessent de nous hanter et nous d'y habiter. Il y a 30 ans, jour pour jour encore, pendant l'hiver 1995-1996, David Lynch tournait dans la maison en face de chez lui, au sommet d'Hollywood. Un de ses films les plus étranges, mais ils le sont tous bien entendu, Lost Highway. Dans un coin du plateau, un étudiant en lettres modernes de l'université de Brest notait frénétiquement dans ses carnets tout ce qu'il voyait et entendait. On dit même qu'il apparaît dans un coin du film, écrivant dans un bus. Comment ce jeune Breton en est-il arrivé à devenir le fils secret de David Lynch et à animer un site internet et une page Facebook, Lynchland, où plus de 100 000 exégètes à travers le monde célèbrent et interprètent l'œuvre inépuisablement mystérieuse du cinéaste? Quel lien avec Eraserhead, son premier long métrage, achevé lui il y a bientôt 50 ans, après 50 tournages? C'est ce que nous racontera dans quelques instants Roland Kermarek. Après lui, on continuera notre exploration du cinéma américain des marges du début des années 1990 avec l'injustement méconnu Alexandre Rockwell, réalisateur d'un film qui marque pourtant à jamais celles et ceux qui l'avaient découvert en 1992. Il s'appelait In the Soup, une inclassable comédie loufoque qui brasse cinéphilie, film de gangster et portrait d'un New York dévasté par 12 ans de riganisme. Le film est ressorti en salle en version restaurée. Nous avons profité du passage du cinéaste à Paris pour le rencontrer. En fin d'émission, Amérique toujours, violente toujours, aujourd'hui comme hier, Charlotte Garçon se plongera dans l'incunable Violent America, un livre paru en 1971, signé d'un critique d'art fameux pour avoir popularisé le terme de pop art, Lawrence Holloway. Un livre récemment réédité et qu'accompagne une rétrospective de son corpus de films au Centre Pompidou, MK2 Bibliothèque à Paris. Mais dans l'immédiat, comme pour beaucoup des auditrices et auditeurs qui nous écoutent en direct, c'est l'heure de passer à table. Bon appétit.
Mary usually does the carving, but maybe tonight you'll do it, Henry. All right with you?
Of course. I'd be happy to. Of course. I'd be happy to.
Do I just cut them up like regular chickens?
Sure, just cut them up like regular chickens.
Okay.
be all right in a minute.
Excuse me.
Bonjour, Roland Kermarek.
Bonjour, monsieur Guillot.
Vous êtes à distance de ce studio, depuis quelque part dans le Lynchland. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on voit dans cette scène d'Eraserhead ? Pardon pour le petit bug technique qu'il a fait répéter à un moment. Eraserhead, on le rappelle, le premier long-métrage de David Lynch, Roland Kermarek.
Alors, ce qui est déjà très très intéressant, c'est que je n'ai pas l'habitude d'écouter simplement la scène et que... Évidemment, la scène passe très très bien simplement en audio, puisque chez David Lynch, le son était tout aussi important que l'image. Et donc dans cette scène, c'est une variation lynchienne d'une sorte de cauchemar domestique de la première rencontre avec la belle famille, qui est un petit peu un sujet de beaucoup de comédies romantiques, mais aussi de la vie de tout un chacun. Et donc on a Henry Spencer qui est interprété par l'acteur fétiche de David Lynch, Jack Nance, donc qui rencontre les X, donc sa belle famille, et donc cette rencontre se transforme en cauchemar domestique avec l'histoire d'un poulet à découper, poulet rétif, oui, qui commence à être pris de convulsions entre l'obscène et le burlesque, et donc ce qui plonge la belle maman dans une sorte de catalepsie assez improbable sous le regard même pas médusé, mais le beau-père, lui, a l'air de prendre la scène comme si de rien n'était. Voilà.
Alors, c'est un film sur lequel vous avez fait votre mémoire de maîtrise. Vous avez ensuite continué à travailler l'œuvre de Lynch avec Elephant Man. Vous envoyez tout ça par des chemins détournés à David Lynch. David Lynch le lit, ou plutôt sa femme qui comprenait un peu le français. Et qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là, David Lynch ?
Eh bien, lorsqu'il a pris contact avec moi, une fois les mémoires reçues, il m'a indiqué avec un sens de suspense tout à fait lynchien que j'avais deux fantasmes absolus, on va dire, à l'époque. C'était de passer un jour sur le tournage d'un de ses films et de pouvoir le rencontrer en tête à tête pendant une heure pour faire une interview. Et donc, il a téléphoné. Et il m'a indiqué que pour passer un jour sur le tournage donc de Lost Highway, ce ne serait pas possible. Il y a eu une pause qui a duré un bon moment. Et il a ajouté, mais par contre, pour l'intégralité du tournage, là, oui, tu pourrais venir sur le plateau.
Et donc, vous vous retrouvez, vous partez baluchon sur l'épaule, vous négociez un peu d'argent avec les pouvoirs locaux en Bretagne. Et un beau jour de fin novembre 1995, vous partez donc pour Los Angeles, pour ces villas et pour ces fêtes.
We've met before, haven't we?
I don't think so. Where was it you think we met?
At your house, don't you remember?
No, no, I don't. Are you sure?
Of course. As a matter of fact, I'm there right now.
What do you mean, you're where right now?
At your house.
That's fucking crazy, man.
Call me. Dial your number. Go ahead.
I told you I was here.
How'd you do that?
ask me.
How'd you get inside my house?
You invited me. It is not my custom to go where I am not wanted.
Who are you?
Dans une soirée à Los Angeles, un saxophoniste de jazz rencontre un homme mystérieux. Il ne sera jamais désigné autrement que l'homme mystère, même dans le générique du film, qui lui assure qu'ils se sont déjà rencontrés et qu'en plus il est chez lui en ce moment. La preuve, il suffit d'appeler chez soi et effectivement, l'homme est au bout du fil. Scène toujours aussi inquiétante de Lost Highway. Alors vous, vous êtes où à ce moment-là, dans le tournage de cette scène par exemple, Roland Kermarek?
Alors, un élément intéressant et amusant juste avant la scène, c'est que David vient me voir et je prenais souvent des photographies donc sur le plateau, voilà. Et il m'indique, donc je ne connaissais pas Robert Blake à l'époque. Il m'indique que concernant Robert Blake,
l'homme mystère, c'est celui qui joue l'homme mystère.
Voilà, voilà exactement. Donc il vaudrait mieux que je ne le prenne pas en photo. Et donc je lui demande pourquoi, et il me dit bah, parce que s'il te voit, je n'en suis pas sûr, mais je pense qu'il pourrait prendre l'appareil photo et le fracasser par terre. donc je me suis bien gardé de prendre des photos, et du coup j'étais évidemment intrigué par l'acteur et le personnage qui est donc grimé avec un masque de cire un petit peu, donc il était sur le plateau assez impressionnant. Et donc, concernant votre question, j'étais comme souvent à côté de David Lynch, derrière lui, quand il regardait donc, la séquence sur son petit moniteur pour vérifier que tout se passait comme il le souhaitait.
Alors, vous êtes évidemment dans une position extrêmement privilégiée pour voir travailler David Lynch. En plus, le soir, même après les prises, vous retournez dans le domaine de la villa de David Lynch, dans un nid de corbeau, comme il s'appelle. Alors, qu'est-ce que vous avez pu observer de la méthode David Lynch? Est-ce que c'est quelqu'un qui, comme Hitchcock, a tout pensé avant et n'est plus là sur le plateau que pour l'imprimer sur pellicule? Ou c'est quelqu'un qui invente et réinvente sans cesse son cinéma?
Alors, il y a eu un petit peu les deux méthodes que vous mentionnez. Alors déjà, quand j'étais sur le tournage, j'avais pas une expérience réelle des autres tournages. Donc, j'ai réalisé certaines choses qu'au fur et à mesure. Mais par exemple, je me suis rendu compte que, alors que beaucoup de cinéastes américains filment les séquences sous tous les angles pour pouvoir ensuite assurer un montage assez confortable, David Lynch, en fait, lui, son montage, il est déjà très, très fixe dans sa tête, ce qui fait que il ne filme les angles simplement que ceux qu'il a besoin, en fait. Donc, il va pas y avoir multiples prises sous tous les angles pour couvrir, entre guillemets, la séquence. Ensuite, c'est vrai qu'on entend assez régulièrement l'idée selon laquelle il aurait un petit peu des inspirations de dernière minute non-stop, mais c'était pas trop le cas. Hein. Le scénario a été respecté à la lettre, les dialogues, le scénario d'ailleurs disponible, donc on peut le vérifier. Les dialogues sont dits souvent au mot près également. Mais c'est vrai que, par exemple, la séquence du rêve, durant laquelle on voit Fred Madison déambuler dans son appartement avec un feu en accéléré, avec les trois tableaux derrière le canapé qui se retrouvent à l'envers, avec un petit nuage blanc qui émerge des escaliers, tout ça, ça a été inventé sur le vif, en direct, et c'est une séquence que j'aime beaucoup raconter quand j'en parle à d'autres personnes, parce que on voyait les idées qui pétillaient dans les yeux de David au fur et à mesure que ça venait, et il était excité comme un enfant C'est lui, par exemple, qui a fait le feu lui-même dans la cheminée sans que personne ne sache ce qu'il allait faire quand il est parti pour chercher des bûches, par exemple. Et donc, il aimait s'occuper de plein de détails. Et donc, le voir à ce moment-là, oui, inventer une scène en direct, ça a été assez formidable, oui.
Est-ce que vous avez été surpris quand vous avez vu le film? Vous aviez lu le scénario, vous avez assisté à tout le tournage, mais je crois qu'au montage, David Lynch a aussi beaucoup coupé, c'est-à-dire tout ce qui pouvait un peu expliciter, donner des clés trop directement au spectateur a été coupé. C'est l'homme mystère, c'est évidemment David Lynch lui-même.
Oui, ça peut être une interprétation. Comme dirait David, il botterait en touche et il ne vous dirait pas que vous avez raison. Mais est-ce que j'ai été surpris par la projection? Alors, la première projection, pour moi, a été assez cataclysmique, puisque j'avais l'impression d'assister à une sorte de journal intime filmé. Et donc ça a été un désastre émotif pour moi, on va dire. Mais et ceci dès le générique avec la chanson de David Bowie, c'était. J'ai mis beaucoup d'années en fait à voir le film de manière normale entre guillemets. Ouais.
Alors, est-ce qu'il est exact, comme ça a été beaucoup rapporté aussi, que David Lynch, un peu comme les cinéastes à l'époque du muet, mettait de la musique sur ses plateaux, notamment du Rammstein, et que quand il tournait des prises, il avait aussi dans l'oreille une bande musicale déjà qui passait en dessous, comme si le film ne se pensait qu'en musique?
Alors, effectivement, Rammstein, c'était le credo absolu sur le tournage. Je ne sais pas combien de centaines de fois, et sans la moindre exagération, on l'a entendu. Ce qui était amusant, c'est que donc, pour la préparation des séquences, qui duraient au niveau technique entre une demi-heure et une heure, systématiquement, pour installer la caméra, l'éclairage, etc., il y avait Rammstein, oui, qui passait en boucle, non-stop, et l'équipe semblait apprécier cette ambiance-là. Le moment le plus caractéristique et emblématique de ce morceau, pour moi, ça a été lorsqu'on s'est retrouvé dans le désert de la Vallée de la Mort, et au beau milieu de la nuit, avec un vent qui soufflait de la poussière, etc., ils avaient installé deux énormes enceintes dans le désert. À un moment, je suis sorti dans la nuit et David Lynch était près des enceintes. Il y avait Rammstein qui hurlait à plein poumon, donc dans le vide absolu. Je me suis approché de lui et il a fait mine avec ses mains qu'il se réchauffait les mains devant l'enceinte comme s'il était devant une cheminée en fait. Et donc ça a été assez extraordinaire. Et donc la musique effectivement, oui, était un grand élément de mise en scène pour lui au moment du tournage, c'est exact. Oui.
Kermarek d'avoir été brièvement notre guide en territoire lynchien. On aura l'occasion, j'espère, de reparler de David Lynch avec vous. Lynchland, c'est à retrouver sur Facebook. Votre livre du même nom, Lynchland, pérégrination autour de David Lynch, tome 1, on espère un tome 2 un jour, est toujours disponible aux éditions Objectif Cinéma. Pour un recueil des propos de David Lynch sur son œuvre, jamais éclairant, on l'aura compris, mais toujours poétique, gardez l'œil sur le donut, pas sur le trou, dans la tête de David Lynch de de Nathalie Bettinger, c'est aux éditions Haut et Bec. Pour célébrer le premier anniversaire de la disparition de David Lynch encore, on salue l'excellente et généreuse idée d'Arte de donner accès gratuitement sur son site internet à l'intégralité des épisodes des trois saisons de sa série Twin Peaks. Et vous avez jusqu'au 19 décembre pour vous y perdre et reperdre. Enfin, on vous renvoie au plan large que nous avions consacré à la mère de toutes les séries modernes. C'était le 31 mars 2018 et au numéro de la série Les films qui ont changé le monde, qui célébrait Mulholland Drive, c'était le 5 août 2022 à vos podcasts. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on part à présent pour New York, dans le Lower East Side de la fin des années 80. Un jeune cinéaste aussi fauché que prétentieux ambitionne de réaliser un chef-d'œuvre aussi indépendant qu'exigeant. Son assommant scénario de 500 pages finit contre toute attente par séduire un malfrat haut en couleur qui va le prendre sous son aile et qui lui promet de réaliser son rêve. C'est le début de In the Soup, un film réalisé en 1992 par un farouche indépendant, lui aussi Alexandre Rockwell, une sorte de fils spirituel de John Cassavetes et ami proche de Jim Jarmusch, qui d'ailleurs joue un petit rôle dans le film en savoureux producteur d'émissions télévisuelles très déshabillé. Le film, extrêmement drôle, touchant et parfois onirique aussi, est porté par un Steve Buscemi, pas encore mascotte des frères Cohen, et un Seymour Cassell qui avait été, lui, la mascotte de John Cassavetes. Le film est ressorti la semaine dernière en copie restaurée, prélude à la redécouverte, découverte même prochaine des autres films encore inédits en France de son réalisateur Alexandre Rockwell. Alexandre Rockwell a accompagné In the Soup dans toute la France et nous avons profité de son passage à Paris pour rencontrer celui qui, depuis de nombreuses années, dirige le département réalisation de l'école de cinéma de l'université de New York.
My father died the day I was born. I was raised by Fyodor Dostoevsky and Friedrich Nietzsche. When I was 12, my mother took me to a psychic who said in a past life I was hit in the head by a movie camera and I died not knowing my own name. He said that's why in this lifetime I'd be allergic to film. He must have had the wrong guy. I'm a filmmaker.
Bonjour Alexandre Rockwell.
Hello, hello, back at you.
Et bonjour. On imagine bien que ce film est une sorte d'autoportrait. Avec la distance, ça devient presque un autoportrait au carré. Quel souvenir vous avez du Alexandre Rockwell qui avait réalisé ce film In the Soup au tout début des années 90?
You know what's interesting about this guy?
Vous savez ce type, ce qui est intéressant, Adolfo Rollo, le héros de mon film, c'est qu'il a un esprit extrêmement prétentieux. Il ne veut pas être contre lui, il veut être Tarkovsky. Mais il a un désir brûlant de faire les choses. Et aujourd'hui, je me dis, quand je le regarde, je suis fier de lui, parce qu'il se jette dans le feu. Et j'aime cette énergie. Quand je regarde le film aujourd'hui, je vois ce jeune homme réalisateur qui dit « Je m'en fiche de tout, je me lance ». Et j'aime ça, j'aime ce côté chez lui.
Ce Dostoïevski et ce Nietzsche qui l'accompagnent dès le début du film, c'était des personnages avec qui vous, vous avez grandi, Alexandre Rockwell.
J'ai habité à Paris un moment et je lisais des livres et j'allais au cinéma. Et j'étais un jeune très sérieux. Et parfois, je me dis, tiens, je l'aime bien, ce type. Mais maintenant, j'ai envie aussi d'un peu de le chatouiller, lui tirer l'oreille. On a envie de rigoler, quoi. Donc, j'avais envie de commencer le film dans un ton très sérieux, Dostoïevski, Nietzsche, mais je voulais quelque chose de marrant aussi. Parce qu'il a été frappé sur la tête quand il était petit, il a découvert qu'il allait être cinéaste. Et donc, c'est un gars qui est très sérieux, j'aime son esprit de sérieux. Quand les gens vieillissent, et qu'ils sont comme ça, ils sont emmerdants. Mais quand on est jeune, l'ambition, c'est bien, j'aime ça.
Alors, vous l'avez dit, vous avez vécu à Paris 2 ans, je crois. Alors, vous avez lu, mais vous êtes surtout allé au cinéma. Comme sans doute Jim Jarmusch, à la même époque, a fréquenté la Cinémathèque française en particulier. Et je crois que c'est là que vous avez découvert le cinéma de John Cassavetes.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre et de ce que ça a provoqué chez vous?
Pour moi, Paris a été mon université. Je ne suis pas allé à la fac. J'ai quitté après un an. J'ai lu Dostoïevski, tout ça, et puis je suis venu à Paris. Pour moi, être fauché à Paris à cette époque, parce que j'avais vraiment pas d'argent, mais je marchais dans les rues beaucoup, je lisais Rilke, j'allais dans les musées, et j'ai découvert le cinéma, là. Je l'ai découvert en tant que religion. Je ne veux pas être prétentieux, mais si je pouvais simplement être une brique dans la cathédrale du cinéma, je serais heureux. Et cet amour du cinéma que les Français ont, je l'ai pris en moi. Quand j'ai vu Cassavetes, je devais avoir 18 ans, j'avais rien vu comme ça. Je savais que les gens pouvaient faire des films très personnels, mais pas avec aucun glamour. Et donc, après avoir vu ce film, j'ai marché dans Paris toute la nuit. C'est une ville merveilleuse. Et j'ai commencé à écrire à John. À cette époque, c'était marrant. On pouvait écrire à quelqu'un comme John Cassavetes. Et il vous répondait. Il est devenu comme mon mentor. Et je l'aime. À ce jour, toujours, je l'adore.
Ce qui est très émouvant, justement, dans ce film, à le revoir aujourd'hui, In the Soap, c'est que vous mélangez deux générations du cinéma indépendant américain. Il y a Seymour Cassell, qui a l'air surgi tout droit d'un film de Cassavetes, et puis il y a Steve Buscemi, qui fait ses débuts à cette époque. La même année, il va tourner le Reservoir Dogs de Tarantino, mais c'est aussi la scène artistique new-yorkaise de l'époque que vous faites rentrer dans ce film. Vous vouliez que ce film soit comme ça, une sorte de passage de témoin et de réunir une grande famille, celle du cinéma indépendant américain, Alexandra Cohen.
Alors, bien sûr, j'aime bien que mes films rassemblent une famille et constituent une famille. Et New York, c'est un melting pot de cinéma indé. C'est là où le cinéma indépendant est né. Par exemple, Robert Frank. Cassavetes, il était de Los Angeles, mais il était quelque part un vrai New-Yorkais. Scorsese, plus tard Jarmusch, Spike, tout ça. C'était quelque part vraiment le lieu où les choses naissaient. Et on était comme une famille, c'est vrai. On se voyait toujours, on se croisait, on se saluait. Quand on était à Los Angeles, c'est très, très, très différent. C'est pas une famille. Tout le monde est en compétition. C'est le business. Les gens veulent trouver du boulot. Ils veulent faire de l'argent. Mais nous, on est frères et sœurs. On vient de la même école. Donc oui, pour vous répondre, c'était un honneur pour moi, oui, de travailler avec Seymour. Et effectivement, quelque part, d'inviter un des animaux sauvages des films de Cassavetes. Et je l'ai présenté à Steve. Et ça a été vraiment une collaboration merveilleuse.
La grande différence entre ces cinémas indépendants d'un côté et de l'autre de l'Amérique, c'est peut-être leur rapport à l'Amérique, justement, au rêve américain. Vous, vous filmez un New York qui est quasiment en ruine. C'est le New York de la fin de l'ère Reagan. On sent que ces années-là ont fait beaucoup de mal à la ville. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous avez capté ce sentiment de l'époque? Je ne sais pas si c'était conscient à votre époque, mais à le voir aujourd'hui, c'est très frappant.
Quand on habitait là-bas, on était tous plus ou moins fauchés. On allait dans des clubs le soir, au Saint-Marc. Et j'ai vu Steve Buscemi jouer dans sur des petites scènes. On adorait le fait que, finalement, on passait sous le radar. Personne ne s'intéressait à nous. Alors, on faisait ce qu'on voulait. On n'était pas en train d'essayer de se faire une carrière dans le cinéma. Et c'était la grosse différence vis-à-vis de Los Angeles. Jamais on n'avait voulu faire une carrière. On voulait faire des films. On admirait le rock'n'roll. ces musiciens-là. On voulait finalement être des rockers. Et Jim, c'est un rocker. On aimait le rock'n'roll et on aimait que ces gens soient anti-establishment. Ils étaient contre les excès de l'époque Reagan et l'époque qui était une époque de rapaces. Et, mais on ne trouvait pas que c'était des ruines, hein, New York. C'était notre décor. On pouvait filmer pour rien. On filmait, on nous laissait filmer. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'autorisation.
Et alors, je parle du sentiment qui donne de l'époque, mais ce qui est très frappant à le revoir aujourd'hui, c'est à quel point votre film est intemporel. Les personnages, l'image, ça pourrait aussi bien se passer dans les années 60. Alors, ça tient beaucoup au noir et blanc très contrasté que vous avez utilisé, mais vous aviez cette envie, justement, de faire un film intemporel.
You know, what's really timeless about it is the energy of a young artist.
Ce qui finalement n'a pas vieilli, c'est l'énergie de la jeunesse. Et qui a tellement envie de faire quelque chose qui soit artistiquement exigeant. Et de quelque chose qui puisse être comparable à Tarkovsky, quelque chose de grand. Quelque chose, on voulait être finalement de la même étoffe que ces grands artistes. Et quand je rencontre des gens, des étudiants, quand je rencontre un jeune qui a cet amour et ce respect pour les générations d'avant, j'aime ça. Et ça me parle. J'aime cette énergie. Et pour vous répondre, j'ai l'impression que j'étais pas conscient de ça, mais je savais ce que c'était que cette énergie et j'avais envie de la mettre en scène, de la montrer, de la partager. Je voulais aussi filmer ce qu'est l'ambition d'un jeune homme qui aime le cinéma.
Mais ce qui est assez frappant dans votre film, c'est qu'il brasse beaucoup de références, mais sans jamais les exposer aussi explicitement que voudrait le faire Adolfo Rollo. Mais il y a quelque chose des Trois Stooges, par exemple, avec les personnages de propriétaires de ce taudis dans lequel vit votre héros. On sent bien que vous avez vu les films du début de la Nouvelle Vague, les films de Truffaut, de Godard. Est-ce que ce noir et blanc-là, pour y revenir, était une façon de s'inscrire dans ce cinéma? Parce que c'est comme si vous récupériez comme Américain ce que les Français avaient récupéré du cinéma américain, du film noir américain, comme s'il y avait un aller-retour d'influence entre l'Amérique et l'Europe.
C'est drôle, j'adore cette question. Parce que quelque part, vous avez dit la réponse. C'est quelque chose comme des mains qui se tiennent et qui se serrent. C'est... C'est un langage international. En tant que filmeur, cinéaste, j'ai pensé que Truffaut et Godard, c'était comme mes parents, mes amis, et que Sam Fuller, c'était mon grand-père. Et c'était un ami, j'adorais Sam. C'est lui qui était le père de certains éléments de la Nouvelle Vague. Et effectivement, c'est une poignée de main au-dessus de l'océan. Il y a des références dans mon film, dans l'or et blanc. Et c'était une façon, effectivement, de faire partie de ce monde. Je me suis mis à la même table que Truffaut, même si j'étais à ses pieds, avec Sam. Et oui, effectivement, c'est partager le même lieu, le même terrain. Et les Trois Stooges, oui. Et Truffaut plus les Trois Stooges, c'est bizarre. Mais c'est finalement l'addition qui fait mes influences.
Hello.
I love that hello.
Ciao.
Hi.
So how much do you need for this movie?
I really haven't made a budget yet.
What use have I got for a budget? This is an artistic project, right?
Yeah, right.
Right, so we're talking dollars.
$250,000 maybe?
No problem, we're covered.
Now I want you to meet me at Al Rubin's.
Now?
I didn't say tomorrow, did I?
Well, I mean, it's 2 a.m.
Hey, you got any of those movies you made? Bring them along, we'll look at them later.
Could it be this guy Joe was what I was looking for? On the surface, he didn't look like a producer type. Not for Adolfo Rollo, anyway.
Ce qui encore donne un étrange sentiment d'intemporalité à votre film, c'est la musique, l'excellente musique signée Madère. On aurait pu penser, vu le milieu que vous fréquentiez et votre amour du rock'n'roll dont vous venez de parler, que vous auriez utilisé une musique très no-wave, comme ça se faisait à l'époque. Votre musique est complètement jazz. Pourquoi ce choix-là ?
You know, once again, it's the music of that room.
Mais là encore, c'est la musique de Melville, c'est la musique de cette ambiance, Louis Malle, voyez. Ces mecs, ils adoraient le jazz. Et donc, c'est une façon bizarre, inconsciente, parce que Madère est français. Il joue de l'accordéon. Il a vraiment une histoire de musicien français. Et puis, il était à New York et il adorait le jazz. Et j'ai vu ce film, vous avez vu dans le film, il y a des scènes où il est tout seul dans le film. Il fume une cigarette, il regarde une souris qui bouffe sa pizza. Et là, je sentais une ambiance de blues. Et c'était beaucoup mieux que du rock. Il nous fallait un contraste avec le New York en ruine et puis la classe du jazz. Il y avait une dichotomie, ça me plaisait.
Alors, je dois vous avouer qu'en général, je ne suis pas très fan des voix off dans les films. Mais la vôtre est extraordinaire, justement parce qu'elle est très musicale. Elle joue beaucoup avec la musique qu'on entend derrière. Est-ce que vous l'avez écrite comme ça ? Est-ce que ça s'est joué au montage ? Parce que c'est un petit miracle à l'oreille, la bande-son de votre film.
Ah, ça m'intéresse, parce que si jamais vous avez lu John Fante, Arturo Bandini. Et Arturo Bandini, c'est Adolfo Rollo. J'adore ces bouquins. Et la façon dont sa voix, la voix de Antonio Bandini, elle est... Il est quelque part en dehors et dans l'histoire. Et j'adore cette idée que c'est une voix qui est dans la tête et qui quelque part parle de quelque chose de concret, de réel. Et quand il est assis dans la voiture, et il se dit, mais mon Dieu, il est quel connard ce mec. Et le tueur, assis à côté de Steve Buscemi, lui dit, qu'est-ce que t'as dit ? Comme s'il avait entendu la voix dans sa tête.
Oui, oui, c'est un moment complètement surréaliste. Skippy, le frère hémophile de Joe, semble entendre la voix off, effectivement, de Steve Buscemi. Une des questions que pose votre film, Alexandre Quell, c'est qu'est-ce que c'est qu'un artiste, qu'est-ce que c'est qu'être un bon réalisateur, par exemple? Est-ce qu'il vaut mieux regarder par le Judas de la porte, écouter au mur, donc être littéralement un stalker, ou est-ce qu'il faut vivre avant tout? Parce que finalement, Joe, c'est un artiste en soi, parce que lui, il agit et il transforme le monde.
Cette question m'intéresse parce que l'artiste, c'est un voyeur, mais c'est un sale voyeur. Il se fait balancer dans le potage. Il regarde un homme qui vole une maison et quelque part, il ne peut pas sortir de cette position parce qu'il y a un vieux qui lui raconte une histoire très, très personnelle et il ne peut pas se tirer de la situation. Et ça arrive, je pense, plusieurs fois dans le film, la voix off de Skippy. Il est dans la voiture, dans le jardin, dans le danger. Et il essaie d'écouter la voix de l'artiste. Mais Skippy entre, viole finalement son espace. Mais c'est intéressant que vous disiez ça, parce que là, du coup, je découvre, oui. Si vous regardez In the Soup, il est tout le temps dans un espace privé de sa voix intérieure. Et tout le temps, il est interrompu. Quelqu'un, quelque part, entre par effraction dans son monde. Comme le personnage du français qui entre, qui pénètre dans son espace. Et Joe, en fait, est aussi quelqu'un qui entre dans ce petit monde de Dostoïevski et de Nietzsche. Donc, c'est un concept intéressant, et c'est vrai. Donc, ce n'était pas conscient. Voilà ma réponse. Je n'étais pas conscient de ça, mais c'est clair que c'est ça que je faisais, oui.
Alors, il y a une autre interprétation qui m'est venue à l'esprit en voyant votre film, puisqu'il est question d'un ange dans le scénario qu'écrit Adolfo Rollo, le personnage du jeune cinéaste. Et je me suis demandé si Joe, ce n'était pas un ange comme chez Capra, comme dans La vie est belle, qui interviendrait dans sa vie, justement, pour la transformer. Mais un ange un peu revu par la société du spectacle, c'est-à-dire qu'il est là pour faire de l'entertainment. Et c'est presque un personnage trumpien, je dirais, sans l'horreur de ce que peut être Donald Trump, mais ce qui compte avant tout, c'est le spectacle et c'est divertir.
Oh my goodness, you brought up the horror of Donald Trump.
Oh mon Dieu, vous avez prononcé le mot Donald Trump.
It's like biting on tinfoil.
Aïe, 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 ça me fait mal. Oui, donnez-moi un peu plus de chocolat là.
But you know, it's interesting this concept of angels because
oui.
Now
cette histoire d'ange, ça m'intéresse parce que maintenant je me souviens. J'avais le sentiment, et ça venait plutôt de bouquins, qu'il y avait toujours un ange derrière vous. Il suffit juste de le regarder. Tout le monde peut changer votre vie, quelqu'un dans le métro. Cette scène avec le type âgé, c'est un ange, il change le film. Et donc j'adore effectivement ce film de Capra, La vie est belle. Et vous avez raison, Joe pénètre dans sa vie. Et il est un ange, dans le sens où il change sa vie, en cadeau. Et je crois que vraiment les anges, ils existent. On peut les appeler anges, d'accord, pourquoi pas. Mais ce sont, oui, effectivement, des gens qui changent votre vie, qui changent le cours de votre vie, comme ça, comme un cadeau. Il faut juste savoir regarder et être ouvert en tant qu'artiste pour recevoir ces anges tout le temps. Si vous vous éloignez des gens, si vous dites « juste ça ne m'intéresse pas », alors là, c'est la mort de vous en tant qu'artiste. Il ne faut pas juger les gens, il faut voir ce qu'ils peuvent vous apporter.
Oui, Joe, d'ailleurs, donne un excellent conseil à Adolfo, qu'on devrait donner à beaucoup de cinéastes, on ne va pas citer lesquels. Il lui dit « ne prends pas les gens de haut ». Et ça, il me semble que c'est quelque chose qui sort directement de Cassavetes, justement, que c'est une citation de Minnie Moskowitz.
Oh, that's interesting. Because
c'est intéressant,
absolutely true.
Parce que c'est absolument vrai. Et John m'a appris ça. Avant, c'est pas que je regardais les gens de haut, mais j'avais l'impression qu'un artiste, c'était des gens qui habitaient dans un endroit au-dessus des autres. Et dans ce film, moi, j'ai voulu comme un personnage à la Zorba le grec, vous voyez, qui est vraiment les pieds sur terre. Il a les pieds dans la boue. Et il apprend finalement aux autres de ne jamais être un snob. Et j'adore quand il dit à Adolfo, Adolfo lui dit, je veux faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'original.
Et
il lui dit, je veux pas faire de l'histoire d'amour. Excuse-moi, tu sais, mais chaque fois que quelqu'un me dit, je t'aime, c'est un nouveau départ pour moi. Et c'est ça que j'ai appris.
Bah, ne pas regarder les gens de haut, ce n'est pas regarder non plus ces personnages de haut. Et j'ai été très touché par la façon dont vous les regardez, vous les filmez, vous les regardez vivre. Je pense évidemment à cette scène de soirée du Nouvel An, où on a l'impression que vous avez juste posé votre caméra là, et puis vous les regardez s'amuser, danser, ou plus tard, quand Simon Cassel va esquisser quelques pas de danse sur un parking au bord de la rivière. Est-ce que ces moments-là, c'était précisément des moments d'improvisation où vous les avez laissés vivre et vous les avez juste regardés, Alexandre Coel?
You know, it's a really interesting thing because when I watch this film,
ça m'a passionné parce que quand je revois le film, je me dis il y a des moments assez magiques où on a l'impression que c'est improvisé. Mais c'était plus de l'instinct. C'était plus comme si quelqu'un qui m'aurait dit si jamais il se met à danser, s'il se met à danser comme Fred Astaire. Alors, on va le faire dans l'endroit le plus improbable, le plus cradingue. Mais ça reste beau. Quand on a tourné cette scène, je ne l'oublierai jamais, il y avait plein de rats partout. Et il danse, Seymour, et en fait, il essaie de s'éloigner des rats. Et toute l'équipe avait peur, parce que les rats étaient partout. Et puis, les rats avaient des puces, alors tout le monde se grattait. Si vous regardez ces plans de Seymour qui danse, dans ce noir et blanc, avec le décor de Manhattan derrière, c'est tellement spectaculaire. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment les pieds dans la boue. Et dans l'instant, surtout. Est-ce que c'était prévu? Je ne crois pas. C'est dû juste de l'instinct. Je regardais vraiment ce monde merveilleux et je voulais le montrer. J'ai essayé de rendre le beau, la beauté du monde.
Vous êtes un professeur de cinéma éminent à l'université de New York. Et c'est un peu comme si, au début, vous étiez Adolfo, puis maintenant, vous êtes devenu Joe. Qu'est-ce que vous racontez à vos élèves? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites, filmez avec ce que vous avez sous la main, allez explorer le monde autour de vous? Et si on faisait un film sur nous, comme il est dit à la fin?
Ça me fait rire parce que je pense à Joe qui serait un prof. Et en fait, oui, c'est ce que je fais. Parce que le premier truc que je leur dis quand ils arrivent, parce qu'ils ont fait déjà un cursus universitaire et ils ont leurs idées un peu prétentieuses comme Adolfo, ils veulent faire de l'art. Ils veulent faire du Lars von Trier. Ils sont très profonds. Et je dis à tout le monde, allez, tout le monde s'allonge par terre. Mais quoi? Pourquoi? Non, tout le monde s'allonge par terre. Fermez les yeux. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Et ça, retournons aux choses de base. Réinventons le cinéma selon vous. Je leur demande de se regarder eux-mêmes d'une façon simple, pas avec des grands concepts. Souvent, les jeunes viennent vers vous et leur dire « Je veux sauver la forêt équatoriale. » Ils veulent impressionner le maire. « Je veux montrer une femme héroïque qui élève ses enfants. » Je leur dis « Non. » Je leur dis « Qu'est-ce qu'est le moment où vous avez rougi la dernière fois? Qu'est-ce qui vous a gêné dans la vie? Et allons dans cette direction. » Il faut être vulnérable. Il faut exprimer vos faiblesses. Ça, c'est Joe. Et ça les choque, souvent. Ils trouvent que c'est vulgaire. Et souvent, je dois aller voir les responsables de l'université parce que j'ai dit un truc trop vulgaire, trop violent. Et ils répondent, parce que j'essaie de les choquer. Comme Joe. Allez, réveille-toi, sois pas prétentieux. Vivons la vie et allons danser. Et je leur dis, toujours, allez, on danse. Quand on fait du cinéma, dansons. Comme John. C'est John Cassavetes qui m'a appelé. Ça. Il était en train de mourir du cancer et John a dit... Il m'a fait tellement rigoler. Parce que je me sentais mal, d'ailleurs, de faire un film. Et il m'a fait rigoler. Si jamais ce mec, il meurt du cancer, qui me fait rigoler, c'est quoi mon problème?
Ben, merci beaucoup, Alexandre Coel, pour ses petits pas de danse et ses excellents conseils.
Well, thank you.
In the Soup est à voir sur grand écran, copie restaurée. Merci à Harold Manning d'avoir été la voix d'Alexandre Rockwell. Vous écoutez France Culture, plan large. Avant de retourner en Amérique, on y reste avec une autre grande figure du cinéma indépendant new-yorkais, Jerry Schatzberg, le réalisateur de L'Épouvantail, Palme d'Or en 1973, mais aussi de Portrait d'une enfant déchue et de Panique à Needle Park, entre autres, que nous avions reçu dans cette émission le 24 juin 2017. Une rétrospective lui est consacrée à partir de mercredi prochain à Paris au Christine Cinema Club. Cinéma qui n'a pas oublié que le cinéaste de 98 ans aujourd'hui avait commencé comme photographe. Plusieurs de ses œuvres sont à voir en ce moment à la galerie Paris Cinéma Club, qui joue sur la dissimulation plus ou moins volontaire des visages de personnalités comme Bob Dylan, Andy Warhol, Yves Saint Laurent ou de très fantomatiques Beatles. C'est jusqu'au 14 février. Grand cinéaste américain nonagénaire encore, qui nous est très cher. Si vous avez raté l'an dernier la phénoménale rétrospective à la Cinémathèque du documentaire de l'œuvre de Frédéric Wiseman, un ciné-club consacré spécialement à ces films se tient tous les dimanches matins au Luxor, toujours à Paris. Il est animé par Fabienne Duzinski, qui enseigne à l'Université de Lille et participe au comité de rédaction de la revue Vertigo. Demain à 10h15, par exemple, vous pourrez voir Blind. En attendant, dans les semaines suivantes, Zoho, Public Housing, Domestic Violence et tant d'autres encore, c'est jusqu'au 8 mars. Et puisqu'on parle de Lille, on vous donne encore rendez-vous mardi prochain à 19h45 pour une avant-première France Culture, ce sera au Majestic à Lille, donc avec Valérie Donzelli qui viendra vous présenter et débattre avec vous de son nouveau film À pied d'œuvre. Ceci annoncé, retour sur les routes américaines dans la nuit et dans la peur.
Ah, ah, ah. You almost wrecked my car. Well? Get in.
And now, fellas, we'll hear that fine new platter by Nat King Cole. I'd rather have the blues.
Une femme qui court affolée sur une route dans la nuit et qui manque de se faire renverser par un détective privé en trench coat et décapotable, qui la prend à son bord avant de repartir sur une chanson de Nat King Cole issue de l'autoradio, c'est l'ouverture très proto-lynchienne, à vrai dire, de Kiss Me Deadly en quatrième vitesse de Robert Aldrich en 1955. C'est un des films qui figure à la fois dans Violent America, le livre de Lawrence Holloway de 1971, livre enfin édité en France, mais aussi dans la rétrospective du même nom qui, dans la salle du Centre Pompidou au MK2 Bibliothèque à Paris, rejoue depuis hier et jusqu'au 25 janvier, tout en la faisant dialoguer avec des films expérimentaux de la collection du Centre, la rétrospective qui, en 1969, au MoMA de New York, avait en 34 films produits entre 1946 et 1964, des westerns, des films noirs, des films de gangsters ou de guerre, proposait une réflexion alors inédite sur la place de la violence dans la culture américaine. En quoi les analyses du critique d'art, spécialiste et propagandiste du pop art qu'était Lawrence Holloway, sont-elles encore pertinentes aujourd'hui, plus de 50 ans après, et est-elle à penser la violence de l'Amérique contemporaine, un an tout juste après le retour au pouvoir de Donald Trump? Eh bien, c'est ce que vous allez nous dire, Charlotte Garçon.
Oui, d'abord, je trouve très stimulant qu'un programme de film soit la base d'un livre, que l'avant-propos et la postface resituent dans leur contexte, puisque vous l'avez dit, tout cela s'est passé en 1969. Alors, initialement, ce cycle à la Cinémathèque du MoMA aurait dû s'intituler « L'Amérique violente », mais le studio Universal refuse de prêter les copies de plusieurs films si le titre de la rétrospective n'est pas modifié. Il est donc édulcoré en « Le cinéma d'action américain », un peu plat. Hein. Cette exigence devant laquelle le MoMA a dû céder en dit long sur un impensé de l'Amérique des Trente Glorieuses qui, même à la fin d'une décennie marquée par des assassinats politiques et par l'embourbement meurtrier au Vietnam, préfère encore penser son cinéma populaire comme un divertissement familial plutôt que de le voir comme ce qu'il est, une maximisation du spectacle violent par la couleur et l'écran large, et parfois la 3D, toutes ces réponses techniques, esthétiques à la concurrence du petit écran. Alors les scénarios aussi y vont de leur escalade violente, selon le principe qu'une mort vaut mieux qu'une égratignure, hein, comme l'écrit Lawrence Holloway, qui excelle à montrer que bien avant les 167 impacts de balles du final de Bonnie and Clyde, le cinéma d'après-guerre affiche, je cite, un scepticisme exacerbé à l'égard de tous les principes moraux. Il prend pour exemple les films de guerre, J'ai vécu l'enfer de Corée, Côte 465 ou Attaque, qui véhiculent, note-t-il, un mépris virulent pour les militaires qui ne se battent pas. Alors ce programme commence et finit par le même film, ou presque, The Killers, Les Tueurs, hein, tout est dit, un film de Robert Siodmak tiré d'une nouvelle d'Ernest Hemingway avec Burt Lancaster et Ava Gardner qui date de 1946. Et il se finit donc avec The Killers, en français à bout portant cette fois, son remake, 18 ans plus tard, par Don Siegel, avec Lee Marvin et Angie Dickinson, et aussi, dans son dernier rôle au cinéma, Ronald Reagan, futur gouverneur de Californie, et etc. Alors que se passe-t-il en Amérique pour que l'année de la fréquentation maximale de ces cinémas, 70 millions de spectateurs par semaine en 1946, tout comme l'année 64 qui marque la déliquescence du système des studios affaibli par la télévision, par la fin du salariat des acteurs et par les lois antitrust qui leur interdisent de posséder des salles de cinéma. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que la violence continue de traverser tous les genres ? Pour Holloway, le cinéma populaire contredit ce que Richard Nixon, deux jours avant la fin de ce programme de film, va proclamer dans un discours célèbre en réaction aux manifestations étudiantes contre la guerre du Vietnam. « La violence peut être contenue », martelait le président qui venait de gagner son élection sur le slogan « La loi et l'ordre ». Alors pour Lawrence Holloway, britannique fraîchement installé de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis au contraire ressemblent bien à l'image que les films en donnent, même si la plupart des Américains sont convaincus que l'Amérique d'Hollywood n'est qu'un faux décor. Alors ce réalisme foncier du cinéma, par-delà ses artifices de production, traduit selon lui un rapport à la violence constitutif de la nation américaine. Je cite « Le Pentagone et les étudiants contestataires, les noirs radicaux et les vétérans des guerres précédant celles du Vietnam, tous font preuve d'une grande indulgence pour la violence sans que ce soit généralement admis. » C'est d'ailleurs ce que des théoriciens ont appelé la culture cachée. Covert culture, hein, c'est-à-dire des traits de culture rarement avoués. Du coup, peu importe les cinéastes, les stars ou la distinction entre les chefs-d'œuvre et les films de série B, hein, Holloway y insiste, la caméra enregistre la topographie et la sociologie avec une fidélité remarquable. Les 40 photos de films qui ponctuent ce livre documentent donc en quelque sorte un changement civilisationnel à travers la gestuelle et l'iconographie. Toute une histoire de la violence se raconte, que l'on voit Burt Lancaster, le visage ensanglanté au milieu des poubelles dans l'homme aux abois de Byron Haskin, ou Kirk Douglas, ligoté dans la poussière du désert dans L'homme qui n'a pas d'étoile de King Vidor. Mais pour moi, Holloway est à son meilleur quand il révèle la violence de films apparemment plus contenus, comme le splendide Écrit sur du vent de Douglas Sirk, mélodrame ourlé sur les conflits d'une riche famille pétrolière, zigzagant aux limites de la violence, écrit-il, comme un bolide sur la ligne blanche de l'asphalte. Voiture rutilante, longue table dressée pour le dîner, dressing débordant de vêtements. Sirk est un maître du monde de la consommation, mais le dressing n'est que séduction et dans la chambre aux couleurs pastel, la femme perd son enfant à cause de la violence du père. La programmation du Centre Pompidou reprend la balle au bon en proposant de penser cette violence, mais cette fois-ci la violence aussi actuelle, sous le règne du gouvernement Trump II. Ça, ce sera l'objet d'une table ronde le 20 janvier. Mais elle articule aussi cette violence des films de genre des années 50 à l'invention formelle des années 60, décennie pendant laquelle le cinéma ne choisit plus entre le réalisme et l'expérimentation, entre la violence physique et le choc esthétique. C'est pour ça qu'on pourra s'éblouir demain 18 janvier dans une même séance avec le final irradiant dans quatrième vitesse et les clignotements de The Flicker de Tony Conrad, donc un film noir d'un côté, et un court-métrage d'avant-garde qui, écrivent les programmateurs, développe une même interrogation sur la fonction mortifère de la radiation lumineuse. Là où Aldrich conjure la peur de l'apocalypse nucléaire, Conrad installe une guerre intérieure, une déflagration perceptive qui rappelle que voir n'est jamais un acte neutre.
Merci Charlotte Garçon. Violent America de Lawrence Holloway, c'est aux éditions Macula. La rétrospective du même nom du Centre Pompidou, c'est jusqu'au 25 mars au MK2 Bibliothèque à Paris, avec force débat et rencontre. À noter que les cahiers du cinéma reviendront sur la question dans leur numéro de février. Une plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Paul Guigue et Grégory Wallon. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.